Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Il est midi 19, vous écoutez Fréquence Mistral, le magazine du midi. Nous sommes aujourd'hui avec Thomas Razo, maraîcher à Lagrand, dans le Buëch, et ancien ingénieur hydrologue au département des Hautes-Alpes. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de l'utilisation des canaux d'irrigation gravitaires, et par là des questions de l'eau, de l'adaptation au changement climatique. On va sûrement aborder plein d'autres thématiques autour. On expliquera ce que sont ces canaux, comment ils fonctionnent, quels enjeux ils font face, et puis pour finir sur les perspectives aussi de l'utilisation de l'eau via ces canaux. Alors pour commencer, peut-être on peut présenter ces canaux, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ?
Alors oui, du coup les canaux, donc ce qu'on appelle communément les canaux gravitaires, donc c'est en fait c'est des ouvrages à ciel ouvert qui acheminent de l'eau depuis des cours d'eau, depuis des prises qui sont réalisées sur des cours d'eau, jusque leur endroit d'utilisation, donc en l'occurrence très souvent des parcelles agricoles. Et du coup, bah, la particularité évidemment, c'est que l'eau s'écoule avec la pente, donc il n'y a pas de pompage, pas d'énergie nécessaire. Donc c'est des ouvrages qui ont été d'ailleurs construits de manière très millimétrée pour respecter une pente la plus faible possible pour que l'eau avance et pour arriver au niveau des parcelles où elles seront utilisées.
Ils sont anciens ces canaux, ils existent depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge pour certains ?
Oui, c'est ça, en tout cas dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes, grosso modo, on a les premières traces au Moyen-Âge, hein, documentées. Donc voilà, Guillestre par exemple, c'était dans les années 1300 et quelque chose, dans le Briançonnais aussi. Donc voilà, c'est quelque chose que rapidement les habitants des montagnes, en fait, notamment des montagnes sèches que l'on a nous, ont vite compris l'intérêt, voilà, en période sèche, donc d'été, qui est très court, donc la saison de pousse des plantes est très courte, et c'est là où il va manquer de l'eau en milieu méditerranéen. Donc du coup, aller chercher de l'eau dans les cours d'eau pour irriguer a tout de suite été une évidence pour les agriculteurs.
Donc ils servaient uniquement à l'agriculture ou il y avait d'autres usages de cette eau ?
Alors du coup, ils ont principalement servi à l'agriculture. Il y a des cas évidemment de moulins également qui fonctionnaient sur les canaux. Alors c'était des fois sur les mêmes canaux, mais pas à la même période, évidemment, parce que les moulins, c'est au moment après les moissons, grosso modo. Donc, du coup, à un moment, on n'a plus besoin d'arroser. Donc, évidemment, aussi, on peut citer de la pisciculture, voilà, ou toutes sortes d'usages autour de l'eau. Alors, historiquement, aujourd'hui, maintenant, il y a une évolution où, voilà, il y a aussi beaucoup de petits jardins potagers, des pelouses, des questions d'agrément aussi dans certains. On peut citer aussi la défense contre les incendies, hein, celui
aujourd'hui.
À l'époque plutôt. Donc celui qui est assez connu de la Gargouille à Briançon, le petit canal de la Gargouille, servait à la défense de l'incendie du vieux village de Briançon. Quoi.
D'accord, donc plein d'usages, on va revenir sur ceux d'aujourd'hui, mais en tout cas déjà à l'époque, c'était vraiment utilisé. Et d'où vient cette eau ? Alors ce sont des cours d'eau qui sont autour dans les montagnes ?
Oui, tout à fait. Alors bon, tous les cours d'eau quasiment, on pourra en parler, mais il y a eu un âge d'or des canaux dans les Hautes-Alpes où il y avait plus de 500 canaux différents sur tout le département. Donc en fait, grosso modo, du plus petit cours d'eau jusqu'à la Durance pouvait être dérivé. Alors voilà, effectivement, les canaux n'ont pas la même taille selon s'ils sont pris sur la Durance ou sur un petit torrent. Mais grosso modo, voilà, là où il y avait de l'eau l'été, souvent de l'eau qui arrivait des montagnes, des bonnes sources ou de la fonte des neiges, elle était captée pour arroser même jusqu'à 2500 mètres. On a des cas de canaux dans le Kera abandonnés aujourd'hui, mais qui servaient à arroser de l'eau à des prairies à 2500 mètres d'altitude pour faucher du foin. Quoi.
Et qui c'est qui les construisait, ces canaux ? C'était les agriculteurs pour leur propre usage ?
Oui, beaucoup. Ça a été beaucoup. Donc les habitants, on va dire, là, on parle beaucoup des canaux depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, grosso modo. Au 19e siècle, il y a eu un changement aussi où l'État, en fait, a aussi accompagné la construction de beaucoup de nouveaux canaux pour moderniser l'agriculture et subvenir aux besoins d'une population qui était très, très nombreuse dans les campagnes et dans les montagnes. Et donc, il y a beaucoup de canaux qui ont été physiquement construits par les habitants, mais qui ont été financés par l'État au 19e siècle. Ouais.
Et ensuite, l'utilisation, elle était gérée par qui ? Chacun se servait comme il voulait ?
Alors du coup, bon, là aussi, il y a eu plein de structures un petit peu différentes qui sont succédées dans les âges. Mais on va dire qu'aujourd'hui, enfin, ou depuis une centaine d'années, la plupart des canaux sont gérés en association syndicale. C'est-à-dire qu'en fait, tous les terrains qui sont dans le périmètre potentiellement arrosables font partie de la structure. Et donc en fait... ad vitam aeternam, c'est-à-dire que le terrain peut être vendu, il y a des nouveaux propriétaires, mais les propriétaires sont obligatoirement dans le périmètre, doivent payer une cotisation et entretenir aussi les ouvrages. Et donc ça a permis de garantir une pérennité de plusieurs siècles à ces canaux, parce que personne ne peut sortir un peu du jour au lendemain du canal en disant bon, moi ça m'intéresse pas. Voilà, ça permet la durabilité des ouvrages. Ouais.
Donc ça, c'est une gestion qui existe encore aujourd'hui. On va parler maintenant donc de ces canaux aujourd'hui tels qu'ils sont. Vous disiez que certains canaux étaient abandonnés, ça veut dire qu'on n'utilise pas l'ensemble des canaux qui ont été construits anciennement.
Ah oui, aujourd'hui on est plutôt tombé, je parlais d'un chiffre de 400-500 canaux, donc c'est approximatif à l'époque, et aujourd'hui on est tombé plutôt à une 100-150 canaux vraiment actifs au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc il y a une, on va dire, une grosse dégringolade. Alors il y a plusieurs raisons, hein. Il y en a effectivement un bon paquet en haute montagne qui ont été abandonnés, hein. Je citais ceux du Kera. En fait, voilà, il y a aussi des endroits qui étaient très compliqués d'accès, où il y avait de toute façon beaucoup de main d'œuvre à une époque et beaucoup moins aujourd'hui, donc du coup ceux-là logiquement étant les premiers abandonnés. On va dire, au fur et à mesure du temps, il y a eu aussi une modernisation, ou en tout cas un changement agricole, qui a fait aussi que nombre de canaux ont été transformés en réseaux enterrés avec des pompages et sous pression, notamment dans le sud du département, dans les grandes plaines un peu plus fertiles, où voilà, les canaux ont disparu, remplacés par un autre mode d'irrigation, on va dire plus efficace, aussi beaucoup plus cher, mais en tout cas plus efficace. Ouais.
Et qui suit les réseaux, les anciens réseaux des canaux ?
Qui a souvent suivi les anciens réseaux, ouais. Mmh. Et souvent, les périmètres étaient à peu près équivalents. Enfin voilà, ça a été des transformations, grosso modo. L'arrosage est conservé, mais pas le mode... voilà. Mmh. Mais bon, on peut quand même dire que dans les Hautes-Alpes, c'est un des départements français où il y a encore le plus de canaux gravitaires encore en activité. Parce qu'effectivement, voilà, on a dans les massifs montagneux, c'est un usage de l'eau qui est assez intéressant, entre autres par le faible coût que ça représente pour les agriculteurs.
Voilà. Oui. C'est à usage uniquement des agriculteurs aujourd'hui, ou qui en bénéficient, en tout cas dans les Hautes-Alpes, si on peut préciser sur ce secteur ?
Oui, alors bah, du coup, c'est très variable. Donc on a dit historiquement, ça a été essentiellement agricole. On sait bien que donc, notamment bon, dans le nord du département, il y a des villes qui ont grossi de plus en plus, comme Embrun, Guillestre, Briançon. Et du coup, bah, les terres agricoles qui étaient à l'arrosage tout autour des anciens villages, ont été un peu grignotés par les modernisations. Les canaux sont toujours là, et donc du coup aujourd'hui, sur certains secteurs, et on en parlera à Guillestre, un remplacement entre guillemets des usagers avant qui étaient 100% agricoles, et maintenant qui sont venus à majorité des résidences. Ce qui ne veut pas dire que les canaux ne sont plus utilisés. Hein. Voilà, il y a encore beaucoup de gens qui arrosent leur potager, leur verger avec le canal. Et puis ça a plein d'autres intérêts qu'on pourra détailler aussi, mais voilà, il y a des usages qui ont déplacé, puis certains canaux sont restés 100% agricoles quand ça reste dans des plaines agricoles. Ouais.
Et ça se décide avec les associations syndicales autorisées, donc on les appellera les ASA ou ASA, dans le jargon.
Les ASA.
Les ASA. Donc ces ASA, elles sont propriétaires, et
oui,
elles gèrent, que ce soit à destination des agriculteurs ou à destination des particuliers.
Ouais. Dans le détail, en fait, bah, du coup, bon, les ASA sont propriétaires des ouvrages, et il y a des organes de démocratiques, hein, internes. Hein. Enfin, c'est des petits établissements publics administratifs, c'est assez incroyable. Leurs cotisations sont relevées par les impôts, c'est les impôts qui envoient des cotisations aux adhérents. Et donc ça garantit un peu aussi cette pérennité. Et donc à l'intérieur, tous les propriétaires sont représentés en fonction des fois de leur taille des parcelles, etc., et décide de comment gérer cette eau-là, quel partage, quel tour d'eau, quels travaux effectuer. Donc c'est un petit peu des petits organes, on va dire aussi démocratiques locales, qui fonctionnent des fois bien, des fois moins bien, mais en tout cas
qui tourne
et c'est mine de rien, voilà, un usage de l'eau qui est très collectif en fait. Enfin voilà, on va dire on a une prise d'eau, un canal, et il faut se répartir cette eau là c'est pas chacun qui ouvre son robinet qui se soucie pas si le voisin ouvre aussi son robinet. Là, il faut, pour que tu puisses arroser ta parcelle, des fois prendre en compte les voisins, où est-ce qu'ils en sont, avoir un règlement, etc. Et c'est source de conflit, mais en tout cas ça marche en termes de partage de l'eau. C'est quand même assez, ça a prouvé, ça fait ses preuves.
Et les personnes qui l'utilisent, cette eau, qui en bénéficient, ils payent une cotisation aussi auprès des ASA.
Oui, voilà, ouais, en fonction de souvent des surfaces arrosées, on a une cotisation. Et donc je disais, c'est aussi une des raisons. Bon, c'est des canaux qui sont historiques, les ouvrages sont là, donc quand ils sont là, souvent on les utilise. Mais aussi, c'est une raison que c'est pas très très cher pour les agriculteurs notamment. Alors pour les particuliers aussi, donc déjà c'est beaucoup moins cher que d'utiliser l'eau potable qui arrive au robinet, donc, et puis ça soulage l'eau potable, donc tant mieux. Et pour les agriculteurs, c'est beaucoup moins cher que d'avoir un réseau sous pression avec un pompage, de l'électricité, etc. Et donc ça permet des fois pour une agriculture de montagne qui a pas une plus-value énorme à l'hectare, ça permet de continuer à arroser à moindre coût, avec évidemment du temps de travail pour le faire, qui est un peu plus important, mais c'est du temps et pas de l'argent.
Oui, et puis après, il faut être sur les bons terrains qui sont irrigués par ces canaux, puisque si on n'y est pas, on ne peut pas se raccorder.
Exactement. Déjà là, si on est au-dessus du canal, on n'aura pas l'eau.
Dommage. Alors, pourquoi utiliser cette forme de la gestion de l'eau? Quel est l'intérêt aujourd'hui d'utiliser les canaux?
Alors, ben, comme je l'ai dit, il y a les intérêts, on va dire, premiers, bon, qui ont fait que ces canaux ont été construits, c'est qu'effectivement, on est dans des montagnes avec un climat d'influence méditerranéenne, donc du coup, on a des étés plutôt secs, et pourtant, on a des torrents qui ont beaucoup d'eau parce qu'il y a des nappes, des sources et la fonte des neiges. Donc du coup, c'est assez tentant d'utiliser cette eau-là au moment où on en a besoin, elle est juste à côté. La forme d'usage de l'eau, elle est intéressante, comme je vous disais, c'est parce que elle met en pratique un partage au niveau local d'une ressource. C'est finalement une des dernières un peu ressources comme ça qui peut être partagée par les habitants très concrètement, quoi. C'est vrai que c'est pas des canaux qui font des centaines de kilomètres et on ne sait pas où sont les autres adhérents, etc. Là, c'est souvent un canal, ça vient sur un village, voire deux des fois pour les plus gros, mais du coup, voilà, tout le monde se connaît et tout le monde apprend à discuter, à se répartir l'eau. Et comme je vous disais, c'est source aussi de nombreux conflits, mais c'est vrai qu'au moins, on n'a pas un système dont on est beaucoup plus habitué aujourd'hui. Pour dès qu'on parle de ressources, souvent on a une institution, une bureaucratie un peu qui est chargée de répartir. Là, c'est la répartition directe entre les usagers, et ça a quelque chose d'intéressant aussi d'un point de vue au niveau social et au niveau nous, à la Confédération Paysanne, c'est là où on intervient un peu. C'est qu'en fait, on défend beaucoup cette pratique d'arrosage et de partage de l'eau, parce que justement, c'est une des pratiques pour nous qui rapproche le plus possible l'usager de la ressource. Concrètement, en fait, tous les usagers savent où est la prise d'eau, connaissent le niveau du torrent parce que c'est le torrent qui passe à côté de chez soi. Voilà, ils sont au courant de comment les voisins utilisent, etc. Ce qui n'est plus forcément le cas quand on habite à Marseille et que du coup on a l'eau qui arrive des Alpes mais dans des tuyaux, et voilà, on ouvre le robinet, on se pose pas de questions et on sait même pas d'où vient physiquement l'eau. Voilà, là, les petits canaux gravitaires de montagne, on est très rapprochés entre usagers et ressources, et y compris quand il fait sec, on le sait, on sait qu'il faut faire des efforts, on le voit arriver. Si l'hiver n'a pas été neigeux, on sait qu'on va peut-être potentiellement avoir des soucis, peut-être on réfléchit autrement nos assolements de culture. Enfin, voilà,
c'est un moyen de responsabiliser à nouveau aussi l'utilisation de cette ressource.
En tout cas, là, ouais, on pense que c'est le cas, ouais.
D'accord, très bien. Alors, avant de parler de aujourd'hui où ça en est et puis les perspectives, en s'appuyant peut-être sur l'étude qui a été réalisée par l'étudiant donc d'AgroParisTech Marius Trimouléac, je vous propose une pause musicale. You know your mother will talk about you, your sisters and your brothers too. Yes, don't care how you
smile. You know the jump, you're up and down. Curves and all around and around. Just to sing about this in mind. They be trying to crush you down. Don't you mind? They be trying to crush you down. To be, there will be no one there to see. You know I've jumped you up and down. Okay, rolling round and round. Just assume this in mind. They'll be trying to crush you down.
You know the jump, you're up and down. Okay, all around and around. Just a single time, this in mind. They'll be trying to crush you down. Don't you mind? They'll be trying to crush you down.
Il est midi 36 sur Fréquence Mistral, vous écoutez le magazine du midi, nous parlons des canaux gravitaires avec Thomas Razo. Et donc nous avons présenté ces canaux, expliqué quand ils ont été créés, leur fonctionnement, leurs usages. Et aujourd'hui alors, il y a une étude qui a été faite à Guillestre, donc par un étudiant d'AgroParisTech, Marius Trémouléac, dont vous avez fait une restitution la semaine dernière avec la Confédération Paysanne. Quels sont les résultats? Quelle est cette étude?
Alors tout d'abord, c'est pour resituer, à la Confédération Paysanne, du coup on s'intéresse beaucoup à ces canaux gravitaires et notamment à leur défense. Grosso modo, ils peuvent être un peu considérés, en tout cas par les institutions, un peu comme des ouvrages un peu archaïques, dans une agriculture qui est modernisée, robotique, génétique, numérique de Emmanuel Macron, les canaux gravitaires avec, c'est presque anachronique. Mais donc du coup, nous, on continue à défendre l'usage là où il y en a vraiment besoin, et en haute montagne, c'est le cas. Donc là, il y a une opportunité d'encadrer un stagiaire sur les canaux de Guillestre. Et le thème, en fait, qui nous intéressait, on a parlé tout à l'heure des raisons un petit peu de l'abandon de ces canaux, ou en tout cas des difficultés qu'ils ont. Une qu'on n'a pas trop citée, c'est qu'il y a une assez forte urbanisation dans certains secteurs de montagne sur des terres qui étaient à l'arrosage. Et du coup, ça pose un certain nombre de conflits et de difficultés nouvelles pour des canaux qui étaient strictement agricoles historiquement. Et donc on voulait justement, par ce stage à Guillestre, puisque c'est le cas à Guillestre, qui s'est beaucoup étendu depuis 50 ans, on voulait un peu creuser ces sujets de quelles sont les difficultés rencontrées par les canaux dans les secteurs urbanisés, et aussi peut-être quelles sont les potentialités, parce que c'est aussi, il peut y avoir des trucs nouveaux à creuser. Donc on a eu un étudiant qui a travaillé 6 mois sur le sujet, donc c'est très très intéressant. Qui a pu cartographier et estimer déjà l'ampleur de l'urbanisation, parce que c'est vrai qu'on peut quand on arrive aujourd'hui à Guillestre, on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai quand on regarde les photos des années 50, c'est le bourg ancien, point, et puis tout autour c'est agricole. Aujourd'hui ça a été multiplié par 5 la surface urbanisée, donc du coup c'est assez, et donc tous ces secteurs là étaient à l'arrosage, donc beaucoup de canaux qui ont été souvent abusés. Donc c'est un des conséquences quand on urbanise, c'est qu'ils sont, ils sont plus à ciel ouvert, puisque du coup, bon, on fait passer des routes, il y a même des constructions par-dessus, ce qui engendre un certain nombre de problèmes, voilà, après d'entretien, juste visuel déjà, voilà, quand c'est busé, on ne sait pas forcément où c'est bouché, où est-ce qu'il y a, il y a un souci. Ça a été le premier point, donc les, un peu le, au niveau construction, travaux, etc., ça se complexifie. Un deuxième point, un peu de difficulté, qui est souvent très très cité par les agriculteurs, parce qu'il y a toujours des agriculteurs sur le canal en amont et en aval, mais ils doivent partager l'eau maintenant avec tout un ensemble d'autres usagers, donc déjà beaucoup plus nombreux que eux, et qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Voilà, on par exemple une prairie de Foch, on l'arrose une fois tous les 10 jours ou 15 jours en été. Un jardin potager, il faut l'arroser tous les 2 jours, 3 jours. Donc voilà, les tours d'eau, donc on en a parlé, doivent être aussi rénovés. La façon de prendre l'eau dans le canal aussi, il n'y a pas les mêmes besoins pour une parcelle de 2 hectares que pour un jardin de 500 mètres carrés. Voilà, il y a tout ça. Donc, ça a créé, c'est assez bien documenté par le stagiaire, hein, un ensemble de conflits d'usage, hein, tout simplement, mais qui trouve des... Enfin, il y a des solutions qui sont trouvées, puisque le canal continue à fonctionner. Voilà, il y a des nouveaux organes un peu de décision
qui décide justement face à ces conflits, comment c'est entre eux, est-ce qu'il y a une priorisation de l'agriculture par exemple, ou...
Alors nous, alors en tant que syndicat agricole, on est plutôt à défendre justement quand même une priorité agricole de fait, voilà, parce que du coup c'est quand même, ça fait partie de l'outil de travail de ces fermes,
mais c'est pas le cas aujourd'hui,
c'est pas toujours le cas. Alors on va dire que la plupart du temps, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que les agriculteurs aussi, puisque ça fait partie de leur outil de travail, c'est souvent eux qui fournissent le plus de main-d'œuvre pour l'entretien et la surveillance des canaux, etc. Donc, du coup, c'est vrai que de fait, grosso modo, ils sont pas trop mal servis. Mais bon, voilà, il y a des adaptations qui sont quand même faites pour les potagers, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi de l'agriculture d'une agriculture vivrière, même à toute petite échelle, qu'on peut aussi défendre. Et donc, voilà, il y a des nouveaux moyens de prendre l'eau sur les canaux qui sont adaptés, justement, qui s'adaptent au changement d'usage. Parce que là, j'ai parlé plutôt des difficultés de ces urbanisations. On peut quand même citer des opportunités, enfin des choses qui ont été relevées par le stagiaire qui sont assez intéressantes. C'est qu'effectivement, dans des canaux strictement agricoles, ils font face à une très grosse baisse de main-d'œuvre. Voilà, les fermes s'agrandissent, ont de moins en moins de main-d'œuvre pour entretenir, donc c'est toujours plus compliqué. Alors qu'en fait, l'afflux, finalement, avec des résidences qui se construisent, l'afflux de nouvelles personnes qui sont des fois OK pour aller entretenir les canaux, surveiller, etc., ou prendre la comptabilité, la gestion du canal, ça a aussi des effets bénéfiques. Voilà, on est par exemple à Guillestre, un très bon exemple, où la présidente n'est pas du tout du secteur agricole, comptable de formation, et elle gère parfaitement bien les côtés administratifs et comptables qui sont de plus en plus complexes, alors que les agriculteurs par exemple s'en désintéressent. Donc il y a aussi, on peut dire qu'il y a aussi plein d'opportunités pour le canal en soi. Et enfin, si on se place d'un point de vue pour tout le village de Guiès, donc là la commune notamment, le fait qu'il y ait ces canaux qui sont aujourd'hui dans les secteurs urbanisés, c'est vraiment un très gros gain en termes de financier pour la gestion des eaux pluviales. Ça, c'est vraiment une question qu'on a beaucoup développée, parce que c'est souvent des conflits entre canaux et communes. C'est qu'en fait, concrètement, toutes les eaux pluviales de toiture, de voirie, etc., c'est beaucoup plus facile de les faire aller directement dans les canaux que de refaire un réseau d'évacuation. Et donc, du coup, ça fait des très grosses économies. Et on l'a vu, notamment, enfin, ça a été aussi très bien documenté dans le stage, aux inondations qu'il y a eu il y a un an, le 1er décembre 2023, à Guiestre, Rizoul et compagnie. Le secteur urbanisé, on va dire résidentiel de Guiestre, a très très peu souffert des inondations, au contraire de tout le secteur plus bas de la ville, zone d'activité, etc. Et on a relevé plus de 1000 litres seconde d'eau dans les canaux, à l'endroit où ils se jettent dans le Guil avec la fameuse cascade, alors que les canaux étaient fermés, hein, avant les pluies, ils étaient fermés. Donc ça veut dire que ça a recueilli au moins 1000 litres seconde d'eau qui sinon aurait peut-être dévasté l'intérieur du village. Donc on a plein d'autres usages finalement de ces canaux autres que l'irrigation qui ont été relevés par ce stage. Enfin voilà, c'est quelques exemples, je ne veux pas citer tout le travail, on le publiera en libre accès.
Il n'est pas encore à libre accès.
Il n'est pas encore tout à fait fini. Il y a une restitution, mais pas le côté écrit. Donc, bientôt.
Et donc, juste, ça me pose une question. Cette récupération de l'eau aussi dans les villes, est-ce qu'il y a des questions pour les agriculteurs de pollution de l'eau ?
Alors, ça pourrait, mais souvent, c'est pas aux mêmes périodes. Voilà. Grosso modo, l'usage, voilà, évidemment, s'il y a un orage en été, ça va dans le canal, mais souvent, c'est pas le moment où on arrose, quoi. Grosso modo, c'est l'évacuation est vite faite. Et puis après, les grosses pluies, on va dire, c'est automne et printemps, plus la fonte des neiges aussi. Il n'y a pas trop de pollution documentée là-dessus. Ça, il peut y avoir des trucs accidentels, hein, voilà, des hydrocarbures qui, voilà, dans le canal. Bon, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, c'est pas trop le cas. Ouais.
Donc là, on parlait du lien avec l'urbanisation, de ces canaux avec l'urbanisation. Oui. Il y a d'autres aspects qui ont été développés dans cette étude ?
Alors, principalement, alors c'était le sujet principal, mais effectivement, il y a eu d'autres choses qui ont été abordées. La question un peu qui revient souvent aussi, face à l'intérêt écologique de ces canaux, puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'administration, des institutions qui considèrent que c'est des ouvrages un peu archaïques, ils leur reprochent aussi, entre guillemets, d'être très consommateurs d'eau, enfin de gaspilleurs même d'eau, au motif que les ratios entre les volumes et les hectares arrosés sont très élevés. Certes, ça, on ne le remet pas en question. Mais par contre, nous, ce qu'on va dire, et ce qui a été aussi démontré dans le stage, c'est que, grosso modo, l'eau qui est prise par les canaux, elle n'est jamais perdue. On va dire que les chiffres qu'on a à peu près, c'est 80% de l'eau qui est prise dans la rivière, donc par le canal, retourne au milieu naturel, soit au bout de canal dans la rivière aussi, soit infiltrée dans les nappes phréatiques, voire dans des zones humides. Alors voilà, parce qu'il y a des pertes, ce qu'on peut appeler, il peut y avoir des pertes le long du canal, ça on va les appeler des fuites, qui sont des choses à corriger souvent, enfin, quand on s'en rend compte. Mais aussi, il y a en fait le mode d'arrosage principal en gravitaire, c'est l'inondation des parcelles. Donc, c'est beaucoup utilisé pour les prairies. Donc, en fait, on va vraiment faire déborder tout le canal pendant plusieurs heures, voire des fois une journée entière, dans une parcelle pour infiltrer complètement, imbiber totalement tout le sol. Et effectivement, quand on fait ça, il y a de l'eau qui va plus loin, donc qui va dans la nappe, ou qui s'accumule en bout de parcelle, qui tombe dans des petites zones humides, des petites mares, etc. Et donc toute cette eau-là, pour nous, on considère qu'elle n'est pas perdue, puisqu'elle elle retourne au milieu naturel, et même elle retourne plus lentement au milieu naturel, parce que tout ce qui est infiltré dans les nappes finit plus tard dans la rivière, mais des fois c'est plusieurs semaines, voire un mois ou deux. Donc, et ça crée toute une richesse paysagère et de biodiversité en fait qui est assez incroyable, hein, parce que des petites zones humides, des petites mares dans des secteurs qui sont des fois des montagnes sèches. Enfin, si vous connaissez Guillestre, le plateau encore agricole, donc au-dessus du village qui est arrosé par les canaux, en fait c'est des steppes, naturellement ça serait une steppe durancienne. À l'entrée des gorges du Guil, on voit un petit peu, il y a un petit secteur, voilà, c'est vraiment des steppes hyper rases. Là en fait on vient importer de l'eau sur ces terrains et on a un paysage foisonnant, des haies incroyables, des zones humides, toute une biodiversité associée. Donc voilà, le stage a aussi porté là-dessus, et la réponse c'est que voilà, ça apporte une fraîcheur au village,
oui, et
dans des zones qui sont historiquement sèches. Donc du coup voilà, on a aussi tout cet intérêt
pour la biodiversité,
voilà, écologique, ouais.
Écologique. Mais c'est la seule méthode d'irrigation ? Pas forcément, puisque les particuliers ils n'utilisent pas cette méthode d'irrigation à partir des canaux.
Non.
Je veux dire par imprégnation du sol.
On
pourrait imaginer d'autres.
Alors de moins en moins. Enfin alors bon, disons qu'on va dire historiquement c'était la seule qui était pratiquée, parce qu'évidemment il n'y avait pas d'énergie de pompage. Donc même voilà, des légumes on peut les arroser. Alors c'est pas par inondation, c'est par raie, on appelle ça par raie, mais aujourd'hui c'est vrai que la plupart des jardiniers, on va dire, vont avoir des petites réserves et des petites pompes pour après arroser leur jardin en goutte à goutte ou en aspersion. Mais c'est vrai que l'usage principal, on va dire en termes de surface, comme c'est l'agriculture, se fait encore de cette façon-là.
D'accord. Et sur le circuit, par contre, vous disiez, il peut y avoir des fuites, mais si les fuites, si l'entretien des canaux empêche les fuites, il n'y a pas trop de perte d'eau normalement dans cette...
Normalement, pas trop. Alors, c'est vrai que ça, la question se pose. Hein. C'est vrai que c'est des ouvrages... Alors, je dis souvent, on essaie de les réparer très vite parce qu'en fait, c'est les fuites sur un canal, ça endommage, ça peut assez vite endommager le canal. Voilà, la berge, etc. Donc, du coup, c'est vrai que quand on s'en aperçoit, on va les réparer. Mais c'est vrai que certaines, on ne voit pas. Et effectivement, toujours la même raison que du coup, au niveau étatique, c'est des ouvrages un peu qu'on considère un peu voilà, en disparition, hein, c'est pour la montagne. Il y a de moins en moins de financement, voire quasi pas du tout, pour l'entretien et la rénovation. Ce qu'on trouve dommage, parce que ça a quand même été des ouvrages qui ont été payés, financés par l'État, et jusque dans les années 60, 1960, il y avait encore des services de l'État qui aidaient à l'entretien, à la rénovation, et puis... Voilà, donc du coup, et pour nous, s'il continue à avoir des canaux gravitaires dans certaines zones, c'est que c'est le meilleur moyen à cet endroit-là. Il y a d'autres secteurs où, bon, changement agricole, entre guillemets, on est passé à l'irrigation en aspersion, en sous-pression. Ok, ça a été fait, mais les endroits où ça n'a pas été fait, c'est que c'était pas possible financièrement, économiquement. Et peut-être d'ailleurs tant mieux, parce que, bon, moi je viens du sud du département, je fais du maraîchage, je suis sur un réseau sous pression. Je vous garantis qu'avec l'augmentation du prix de l'électricité qu'il y a eu ces dernières années, enfin même depuis une quinzaine d'années, hein, mais encore plus il y a 2-3 dernières années, beaucoup de mes voisins réfléchissent sérieusement à arrêter l'irrigation parce qu'en fait ça devient extrêmement cher. Donc on voit que dans ces périodes-là, finalement les canaux qui sont encore présents, certes ils ont des inconvénients, mais ils ont aussi cet avantage de garantir un arrosage à bas coût, quoi.
Oui, et justement, pour cet avantage face au changement climatique, avec la sécheresse qui arrive et puis l'urbanisation, vous, comment vous le... À la Confédération Paysanne, je veux dire, pardon, qu'est-ce que vous envisagez? Vous dites que vous défendez donc ces canaux, pour plusieurs raisons, on en a évoqué, mais quelles sont les perspectives peut-être à évoluer, à améliorer dans le futur?
Oui, du coup, on a demandé aux stagiaires de pas mal travailler aussi là-dessus, de compiler les différentes pistes un peu d'adaptation qui sont déjà des fois mises en œuvre sur certains canaux. Donc, nous, on pense, en fait, au niveau général, on pense que, en fait, comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est des ouvrages où, avec une gestion vraiment collective d'une ressource, qui est une ressource qui n'est pas illimitée, puisqu'en fait, c'est celle qu'on a à côté de chez soi, le petit torrent qui est à côté, ou le gros torrent, ou la Durance, mais grosso modo, on va pas, avec ces moyens techniques-là, on ne va pas aller chercher l'eau de l'autre côté des Alpes, ou remonter l'eau de 1000 mètres, comme pour faire de la neige artificielle à Risoul, par exemple. Donc, on reste sur des ouvrages très simples, etc. Et donc, c'est encore un bon moyen, même si on va vers, effectivement, une baisse des débits des cours d'eau en été, moins de neige, voilà, etc., on le sait. On fait le pari qu'en fait la gestion collective des habitants pour ces ouvrages-là, elle permettra de s'adapter, parce qu'en fait il y a plein de moyens de s'adapter. En fait, bon, il y a des travaux à faire pour résorber le plus possible de fuites, effectivement, améliorer un peu le côté hydraulique, mais après il y a aussi beaucoup de travail, et ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font déjà ce travail-là, au niveau de chaque ferme, de réfléchir à quels sont nos besoins en eau et comment on va avoir des stratégies d'adaptation au fait qu'il y a des années qui vont être sèches, beaucoup plus sèches, d'autres peut-être plus humides. Et du coup, voilà, peut-être sur plusieurs années, comment on s'adapte? On ne va peut-être pas mettre 100% de nos cultures à l'arrosage, à l'irrigation, parce qu'en fait, ça, c'est un peu suicidaire si on pense qu'on n'est pas très bien sécurisé en eau. Mais voilà, on en met une petite partie qu'on sait que là, on va essayer de la sauver. L'autre partie, bah, s'il y a de l'eau, on l'arrose. S'il n'y a pas d'eau, on n'arrose pas. On peut faire du stock de foin d'une année sur l'autre. Voilà, entre la première, la deuxième coupe, le regain. Enfin, voilà, il y a tout un tas de stratégies internes aux fermes. Et puis aussi, bah, du coup, entre les plusieurs fermes qui sont dans le même périmètre d'arrosage, qui peuvent aussi, voilà, s'entendre pour dire, bah, en fait, on va avoir moins d'eau. Comment on continue quand même de l'utiliser? Mais voilà, des canaux peuvent très bien fonctionner avec... beaucoup moins d'eau. Voilà, il y a plein d'exemples dans le monde. Voilà, il suffit juste d'adapter l'utilisation à la ressource qu'on a, quoi.
Oui, ce qui implique quand même plus une question d'adaptation en termes de relations et d'échanges et de communication, plus que technique, finalement. Enfin, à part au sein des fermes, chacun individuellement,
oui,
mais de s'entendre.
Ouais, ouais, ouais.
Vous en discutez avec d'autres agriculteurs. Là, on parle de la Confédération Paysanne, qui ne sont pas à la Confédération Paysanne. Le discours, il est ouvert ?
Oui, bah en tout cas, pour tous ceux qui pratiquent l'arrosage, donc ils sont membres de ces associations syndicales autorisées de canaux, de toute façon, c'est une évidence. De toute façon, c'est à moins qu'il y ait des très rares cas où il n'y a qu'un seul agriculteur sur le canal, et bon, bah là, c'est réglé, il s'arrange avec lui-même. Mais du coup, en fait, la plupart pour eux, c'est déjà une évidence. De toute façon, même au niveau familial, historique, tout le monde a en tête comment ça se passait des fois pour leurs grands-parents, en fait, c'est les vieux et les enfants qui allaient des fois dormir à côté des ouvrages de martelière pour garantir que là, dès que j'ai mon tour d'eau à 3h du matin jusqu'à 6h, je le prends et j'arrose ce qu'il faut pour pas qu'un autre vienne me le piquer, etc. Bon, voilà, je disais tout à l'heure en antenne que les tribunaux ruraux sont remplis, en fait, d'histoires de conflits autour de l'eau depuis le 19e siècle.
Et encore aujourd'hui,
voilà, ça se règle un peu moins à coup de pioche, etc., qu'à une époque, mais ça pourrait encore. Mais en tout cas, effectivement, c'est essentiellement pour nous, en fait, une question de relationnel et de répartition de l'eau qui va nous faire faire, entre guillemets, le plus d'économies, enfin, une meilleure adaptation à la sécheresse, parce qu'en fait, voilà, la technique, enfin, les améliorations techniques, elles ont toujours une limite et toujours un coût aussi, donc il y en a à faire. Mais la principale, c'est effectivement cette discussion entre les usagers. Et voilà, et ça, peu importe les syndicats, enfin, tous syndicats confondus, de toute façon, même, il n'y a même plus besoin de parler de syndicats, parce qu'en fait, là, c'est dans chaque canal, chaque association de canal, que la discussion se fait, et on est de toute façon obligé de discuter avec son voisin, parce qu'en fait, sinon, ça marche pour personne, quoi.
Et est-ce que ce ne serait pas, avec ces canaux, une forme de privatisation de l'eau ? On peut imaginer, si à un moment, il y a moins d'eau, ceux qui sont raccordés à ces canaux et l'eau vient de la montagne vont en avoir, et peut-être il peut y avoir des pénuries ailleurs. C'est envisager ça, ce partage de l'eau hors aussi canaux, personne qui bénéficierait de ces canaux.
Oui, alors c'est vrai que c'est un argument qui est souvent donné. C'est vrai que si vous avez la chance d'avoir un terrain dans un périmètre de canal, vous avez potentiellement de l'eau. Et effectivement, si vous êtes à côté, vous n'êtes pas dedans, vous n'en avez pas. Donc on pourrait parler de privatisation. Alors c'est vrai que le mot est peut-être un peu fort, puisque on l'a dit, en fait, c'est des ouvrages qui sont publics, donc des associations, des établissements publics, et qui gèrent une ressource pour un grand nombre de parcelles, d'agriculteurs ou de particuliers. Donc c'est vrai que c'est pas un accaparement, on peut dire, par très très peu de monde. Mais effectivement, si vous avez un terrain, alors là c'est la technique justement qui limite. Si votre terrain est au-dessus du canal ou beaucoup trop loin, c'est sûr que là, techniquement, on peut pas vous amener de l'eau. Il faut trouver une autre solution. Et en fait, ça fait aussi penser. Enfin, ça fait aussi rebondir sur ces questions de droit à l'accès à l'eau. C'est vrai qu'on peut avoir tendance, mais pour d'autres ressources, c'est un peu la même chose. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, là, en fait, on est limité par la ressource du torrent donné et par la position des parcelles. En fait, aujourd'hui, avec les moyens techniques qu'on a, les pompages, l'électricité, etc., comme je vous dis, on peut remonter de l'eau n'importe où, ou forer à des profondeurs incroyables pour aller chercher de l'eau. Mais c'est vrai que du coup, est-ce qu'on ne va pas justement, avec ces techniques-là, aller trop loin dans la ressource et arriver à des aberrations comme monter l'eau de 1000 mètres ou l'histoire des méga-bassines dans l'ouest de la France, où en fait, c'est à ceux qui peuvent capter l'eau le plus profond dans la nappe et la mettre dans des bassines privées, là pour le coup privées, qui peuvent avoir cette eau-là, alors que tous leurs voisins autour ne l'ont pas. Donc voilà, nous, ce qu'on pense, c'est quand même les canaux. Certes, toutes les surfaces agricoles du département des Alpes ne sont pas arrosées, mais en tout cas, c'est les parcelles qui ont été situées au bon endroit qui le sont. Et on ne risque pas avec ça d'aller, aller chercher trop loin de l'eau et arriver à quelque chose qui soit plus du tout en adéquation avec la ressource, quoi.
On reste dans un partage à ce niveau-là, en tout cas.
Voilà, ouais, ouais.
D'accord.
Ouais.
Ce sera le mot de la fin. Il est déjà bientôt l'heure de rendre l'antenne. Vous avez, à moins qu'il y ait une, en une minute, en 30 secondes, un mot à rajouter sur ces, cette question des canaux, peut-être ?
Non, mais peut-être ce qu'il faut peut-être dire aux auditeurs, ou en tout cas, s'il y a des personnes qui sont membres de ces canaux et qui peut-être n'étaient pas trop impliqués jusqu'à présent, ben voilà, je pense qu'il y a un gros enjeu d'aller s'impliquer même en tant que particulier et pas seulement agriculteur pour continuer à faire vivre ces structures qui sont en plus des fois des patrimonialement et écologiquement assez incroyables, quoi, en plus de l'outil de travail. Ouais.
Merci Thomas Razo. Donc je le rappelle, vous êtes maraîcher à Lagrand et ancien ingénieur hydrologue au département, et vous nous avez parlé donc des canaux gravitaires, une étude qui va être donc publiée sous peu, affaire à suivre, on verra.
Début 2025.
Très bien, on mettra le lien sur le site de Fréquence Mistral. Il est temps de se quitter. Demain, vous retrouverez comme tous les mercredis Nathalie à Manosque à 12h10. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Fréquence Mistral.
I know they said never look back, but we keep driving to where it's at. Whatever way we go, we gotta dig our way out of the snow. Mom, baby's gonna pay.